Gönül serudin, urgor elnak mekmiş mi yasin?
Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard.
Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Et aujourd'hui, c'est une émission en format spécial, parce que Lamine n'est pas dans le studio. Nous allons retrouver en ligne bientôt. Alors, restez à l'écoute. Et vous pouvez aussi appeler, je pense, au 04 91 08 28 10. A tout de suite.
Rai mai na malevo io
Rai mote Rai mote io
Oh na levo mamma na malevo io
Rai mote Rai mote io
Rai mai mote Rai mai na malevo io
Rai mote Rai mote io
Mamma blanca no massa ya chino pire
ah ah si sembo
ya si sembo pula baia
Ah, ah,
plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Yeah, I'm for being my letter, so don't die, don't my like, no fight. altre pietre, non ci gove d'arco. Pare de cu le purecci ca un ramco. Pur ne tente de si eu, andu-nearo cu ite, mă gândală bă mulernio. Ce-o să fotoref cu să mă profil eu. Tu de mă gândi toch na loco bă mă mață. Ba el gheli mă ba ile, le pângheri eu. Mă gândi tau să mă holi mă uri eu din nat.
Émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère et on va retrouver tout de suite Lamine puisqu'on avait un petit souci technique. Bonjour Lamine. Bonjour Lamine.
Oui, bonjour Richard. Tu m'entends?
Oui, on t'entend, tout le monde t'entend. Nous sommes en direct sur Radio Galère 88.4 de la Borne FM.
Eh ben, écoute, donc aujourd'hui tu sais, je fais ton envoyé spécial depuis le Maroc. Voilà,
d'accord.
Donc on fait l'émission en direct du Maroc. On est dans un souk, j'ai oublié le nom, on me l'a dit. Voilà. Et comme tu le sais, donc on va essayer de faire cette première partie avec tout simplement la qualification de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, donc qui s'est qualifié, et je rajoute d'ailleurs le Maroc, parce que je suis au Maroc, on a bien fêté aussi la victoire du Maroc. Voilà, donc si les auditeurs, plus nos chroniqueurs, parce que Matarli, donc depuis les États-Unis, ou Medoun, donc depuis le VAR, donc je sais que c'est des accros de l'équipe nationale du Sénégal, ou tout simplement tous les autres auditeurs qui veulent participer en nous appelant au 04 91 08 28 10. Voilà, et puis si Richard, on a le temps
par... oui. Je peux te dire, excuse-moi, que Matar a déjà téléphoné, hein, parce qu'il est déjà là, il est déjà prêt.
Ah, Matar a déjà téléphoné, donc tu vois, je suis en décalage.
Ben, parce qu'on a eu un petit souci technique, c'est pour ça.
Voilà, on a eu un petit souci technique. Hop. Attends. Voilà, et donc du coup, Richard, si on a le temps... on parlera pourquoi pas, je ne sais pas si on a le temps, hein, mais bon, on essaiera. Tu as vu l'Assemblée nationale du Sénégal, nous avons beaucoup de problèmes.
Il y a une grosse bagarre, j'ai vu une grosse bagarre sur les réseaux.
Effectivement, donc quoi qu'il puisse se passer, on n'a pas à gifler une femme députée à l'Assemblée nationale, quoi. Enfin, on n'a pas à gifler une femme tout court. Voilà, et donc du coup, voilà, même si aujourd'hui on s'est beaucoup battu pour l'opposition, voilà, l'opposition doit quand même être exemplaire et ces genres de choses devront être évitées. Et d'ailleurs, j'espère que ce député sera sanctionné. À un moment donné aussi, on ne peut pas se permettre dans la représentation nationale de dire ou de faire ce que l'on veut. Mais heureusement quand même, on a entendu Guy Marissagna, on a entendu Barthélémy Diaz face au ministre de la justice. Et donc, voilà, au moins, il y a quand même le travail qui continue. Mais par rapport à ces violences, on doit tout faire pour les bannir donc, de l'Assemblée nationale. Et puis, Richard, si aussi on a le temps, on peut parler de l'attitude du président de la République, donc Macky Sall, qui est en train quand même de mettre à des postes stratégiques des personnes qui sont quand même plus ou moins mêlées au viol, donc... dont le leader de l'opposition a été accusé. Donc, je veux parler du procureur Serigne Bassirou Gueye, qui vient d'être promu président donc, de l'OFNAC, donc l'Office national pour la lutte et, contre la corruption et les détournements, etc. On a vu Mamour Diallo, qui est promu directeur général de l'ONAS, avec déjà, il est mêlé dans l'affaire Agissar. Ousmane Sonko l'avait accusé donc, de vol de 94 milliards. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, vraiment, il y a la matière, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout, les Sénégalais attendent de voir ce que l'équipe nationale du Sénégal va faire demain face à l'Angleterre. Et puis, Richard, donc, comme tu le sais, les conditions ne sont pas toujours bien réunies pour qu'on fasse cette émission depuis ici, Agadir. Donc, je te laisserai la deuxième partie, donc la restitution des chercheurs et les doctorants de Movida. Donc, qui ont vraiment bien travaillé ici donc, pendant pas mal de jours. Et donc, il y a la restitution des travaux avec l'équipe de Sophie Bava. Et donc, du coup, lors de la dernière demi-heure, on va vous laisser en tout cas avec les étudiants, les doctorants, les encadreurs pour pouvoir tout simplement vous faire la restitution du travail qui nous a amené ici à Agadir. Voilà, donc Richard, si je sais pas, tu veux mettre un peu de musique en attendant ou c'est toi qui gères?
D'accord, oui, on peut mettre une musique. Je peux remettre la
Allez.
chanson pour le foot là qu'on a mis que j'ai passé tout à l'heure.
Allez, ça va, y a pas de souci.
Donc à tout de suite, Lamine.
À tout de suite.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère, nous allons retrouver tout de suite Lamine du côté d'Agadir. Alors Lamine, est-ce que tu es là? Alors, l'ami, tu...
Oui. Allô?
Oui, Lamine, on est de retour sur l'antenne de Radio Galère.
Oui, tout à fait, Richard. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle musique victorieuse de cette équipe du Sénégal. Voilà, j'en profite aussi pour faire un coucou à mon chroniqueur, celui que j'appelle le Sénégalais le plus informé du Sénégal. Donc, Medoun Diène, donc notre chroniqueur depuis le Var Toulon. Voilà, donc Medoun, j'espère que tu nous reviendras en forme. Voilà, parce que je sais que la semaine a été très dure. Voilà, ça bouge énormément. Et puis, j'en profite aussi pour nous à Marseille depuis Agadir. Et j'espère, Richard, vraiment que demain, le Sénégal, en tout cas les Sénégalais là-bas vont s'organiser, voilà, pour... que cette victoire n'ñep ñaan n'ñep julli n'ñep en tout cas def luñu mën, parce qu'il est temps que le Sénégal reparte en quart de finale, et je pense que c'est bien faisable face à l'Angleterre. Voilà, c'est sûr que Aliou Cissé, on n'arrête pas de le critiquer, en tout cas je le dis, je l'assume, moi je le critique tout le temps à la radio. Maintenant, je vais pas dire que xamul dara, non, je vais pas dire qu'il est nul comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on ne peut pas être nul et gagner la Coupe d'Afrique, être nul et être qualifié en huitième de finale, mais quand même, voilà, on peut dire qu'il peut encore faire des recadrages. Et donc je pense que demain, Idrissa Gana Gueye par exemple ne va pas jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un Pathé 6, on a un Ampalis, voilà. Il n'y aura pas Cheikh Kouyaté aussi. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment de joueurs demain qui peuvent encore se transcender. D'autant plus que Richard, tu le sais qu'il n'y a pas Sadio Mané. Voilà. Richard, tu es toujours là ou t'es parti?
Je suis toujours là. J'ai entendu qu'il avait une petite blessure, tout comme Benzema.
Voilà. Donc, comme il n'y a pas Sadio Mané, où tout, si tu veux, tout l'espoir du pays reposait en tout cas sur ses épaules. Aujourd'hui, avec l'absence de Sadio Mané, les joueurs ont su, en tout cas avec le capitaine, donc Kouyaté, pas Kouyaté, ça me reviendra, avec le capitaine Koulibaly, voilà, donc faire le nécessaire vraiment pour que l'absence de Sadio Mané ne soit pas remarquée. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons, comme je dis, deux équipes africaines. Nous avons le Maroc. D'ailleurs, Richard, comme je t'ai dit, ici, on a fait la fête. Les Marocains aussi sont très contents. Et d'ailleurs, ce qui m'a surtout surpris, les Marocains sont très, très contents de la qualification de l'équipe du Sénégal. Voilà. Et donc, du coup, bon, tu sais, Richard, on a une forte communauté sénégalaise au Maroc. Voilà. Et les Sénégalais et les Marocains, que ce soit de Agadir, que ce soit de Rabat, Casablanca, un peu partout, voilà, sont en parfaite, en tout cas, symbiose, notamment au niveau même des marchés, parce que là, comme j'ai dit, on est dans un souk là où on va certainement rencontrer beaucoup de Sénégalais. Voilà, et dès qu'ils nous voient, même dès que je marche, on me dit « Ah, Sénégalais !» Voilà, donc j'espère vraiment que ces deux équipes-là iront ensemble en quart de finale, parce qu'il y a de la qualité, il y a du talent, et on continuera vraiment à faire. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour battre cette équipe d'Angleterre. Le Maroc aussi qui va jouer contre l'Espagne, c'est tout simplement un derby venu d'ailleurs, Maroc-Espagne, et c'est très, très faisable, c'est prenable, voilà, que les Marocains et les Sénégalais puissent vraiment accéder en quart de finale. Donc, Richard, je pense qu'on va, nous, de notre côté, un peu écourter mon intervention, voilà, te laisser continuer, et comme j'ai dit, Je vais tout simplement donner la parole, Richard, donc 2 minutes à Madame Sophie Bava, qui est directrice donc du laboratoire Movida, donc juste pour qu'elle nous campe le sujet donc de en tout cas de cette école de formation qu'on est venu faire ici à Agadir. Et puis Richard, nous on terminera tranquillement, je te laisserai terminer l'émission et finir avec la restitution, comme j'ai dit, des travaux de Movida. Donc Sophie, je te laisse avec Richard lui dire 2 mots sur ce pourquoi on est venu à Agadir.
Bonjour Sophie.
Bonjour Richard. Ça marche bien la connexion, comment tu vas?
Tout à fait, oui, là ça marche très bien.
Bonjour le plateau du Sénégal. Merci de nous accueillir encore pour notre émission mensuelle de Movida, cette fois avec notre envoyé spécial Agadir, qui a suivi un petit peu toute cette école de formation à la recherche. C'était un moyen aussi de voir Movida à quoi ça correspondait plus largement. Donc c'était une école de formation à la recherche sur la circulation du savoir, des savoirs, des normes et des idées en Afrique. Et donc, la mine a interviewé pas mal de chercheurs, d'encadrants, même le doyen de l'université. Et Richard a fait un montage qui diffusera dans la seconde partie de l'émission, où on voit un petit peu, peut-être ce sera le moyen d'entrer un peu plus loin dans les travaux que font ces étudiants, qui servent aussi et qui impactent les décisions locales sur la circulation et l'impact de l'immigration. Et la manière dont ces migrations peuvent être une ressource dans les sociétés traversées, où vivent les migrants qui arrivent d'Afrique subsaharienne ou qui circulent dans ces lieux entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique méditerranéenne. Voilà, donc bonne écoute, bonne émission et bon match pour le Sénégal demain. On croise les doigts, on sera rentré à Marseille d'ici là pour suivre le match. Merci Richard.
Merci beaucoup Sophie.
Voilà Richard, donc on va te laisser continuer l'émission. Donc le temps qu'on fasse quand même un peu de tourisme parce que on n'a pas eu le temps. Ça a été vraiment très 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 chargé. Et puis j'en profite Richard pour dire aussi que j'ai une pensée à mon homonyme, donc Lamine Diack, hein, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui est décédé exactement il y a 1 an, le 3 décembre. Voilà, donc il nous a dit hier un petit carré pour Adjana, mon pays. En tout cas, j'allais voir le Sénégal dire, parce que c'est une grande perte pour le Sénégal avec tout ce qu'il a fait donc, pour le sport. Et pour ça aussi, j'espère tout simplement que demain, l'équipe nationale du Sénégal remportera cette grande victoire pour tous les Sénégalais qui sont disparus et qui œuvraient pour le sport. Donc, bien sûr, je pense à mon homonyme, je pense à Pape Boubajour qui avait marqué le but contre la France. Là, je pense à Bruno Metsu, voilà, notre entraîneur français qui a été enterré au Sénégal, voilà, et à plein d'autres personnes vraiment qui se sont toujours battues pour le Sénégal, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan sociétal. En tout cas, vraiment à tous ces Sénégalais, demain, nous comptons fort sur leur victoire, parce que la victoire, ça fait toujours du bien, même si certains qui sont au palais en profitent. Mais bon, ça fait partie donc, du Sénégal. Macky Sall aussi a le plein droit de jubiler pour cette victoire. Je vois, il y a beaucoup de critiques. Qu'est-ce que le président, il fait? Il va, non, 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 Medoun, je sais que de là où tu es en train de bondir, mais le président Macky Sall a le droit de jubiler quand son équipe nationale du Sénégal gagne. En tout cas, j'espère tout simplement qu'il va encore jubiler, que nous allons jubiler demain. Et Richard, je te laisse tout simplement finir l'émission. Et voilà, donc un clin d'œil à tous les Marseillais. Voilà, c'est vraiment bien là où je suis, comme je dis, mais on est encore mieux chez soi et j'ai hâte de revenir à Marseille. Voilà, Richard, bonne émission. Et très bonne journée et très bon week-end à tous les auditeurs de Radio Galère.
Merci beaucoup, Lamine, et très bonne fin de séjour au Maroc. Alors, à bientôt.
Merci beaucoup.
Bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer. Cette fois, on a un auditeur qui nous appelle pour faire une dédicace, pour passer un message pour la Coupe du Monde. Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô. Ah, bonjour, Radio Galère. Bonjour, le Sénégal. Je vous souhaite un très très bon sport de ma part et ne tombez pas comme elle tombe la France dans le 14e, dans le CAN et la CAF, l'agression, parce que tu peux demander le commissariat de Istres et de Aix. Ici, il est content. S'il n'est pas content, votez pour moi. Et je viens vous applaudir dans le stade. Je suis dans le bureau d'Europe. Et au lieu qu'il marche avec le pantalon nu, il va se marier avec Guérini à la Radio Gazelle. Voilà, tu es dans le 4e but, je le veux ce soir, Sénégal. Hey, allez, ciao.
Merci beaucoup, au revoir monsieur, bonne journée, bon match. Et puis aussi, petite dédicace à notre fidèle auditrice Christine. Christine, est-ce que tu peux me rappeler pour me redire ton message, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de le noter. Et puis, très bonne écoute à tous. Émission Le Plateau du Sénégal, n'hésitez pas, 04 91 08 28 10, bonjour.
Bonjour Richard.
Bonjour Sophie.
Comment ça va?
Très bien, merci, et vous?
Bonjour Lamine, profite bien du Maroc, c'est un très beau pays, vraiment, on y passe souvent de très bonnes vacances. Et puis bonne fin de séjour à Lamine, et bonjour à tous les auditeurs du Plateau du Sénégal. Donc, dis-nous, Nyep, Dizier, Nyep, Dibalo, Akri, Nyep. Richard, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas intervenir par rapport à ce qui s'est passé cette semaine au Sénégal, notamment à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Franchement, c'est très, très triste de voir ça. Moi, je me demande dans quel pays on est. Ça, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui puisse se passer. C'est pas possible. Parce que franchement, taper sur une femme en direct, hein, de l'Assemblée nationale, que tout le monde regarde, on voit un monsieur de l'opposition se lever et taper sur une femme de l'APR ou de Beno Bokhayakar. Moi, je connais rien à cette politique-là. C'est quelque chose d'impensable, d'inadmissible. Lolu warnu ko baye mu dial. Et puis ce qui me fait le plus mal, c'est que il y a d'autres les gens de PASTEF qui croient que c'est quelque chose de normal parce qu'il y a d'autres femmes qui ont été assassinées, d'autres femmes qui ont été violentées, d'autres femmes qui ont été emprisonnées. Mais c'est ça le problème justement. Donc on ne peut pas soigner un mal par un autre mal. Le problème c'est qu'il faut que cette violence faite aux femmes cesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ils trouvent tout ce qui se passe aujourd'hui, et les Sénégalais trouvent ça normal du moment que ça se passe du côté de l'État. Et quand c'est de l'opposition, non, c'est pas normal, l'État doit l'arrêter et tout ça. Mais il faut que ça cesse. C'est quoi cette violence? C'est pas le Sénégal, ça. On n'a jamais eu une politique aussi dégueulasse, je suis désolée, depuis très longtemps. On n'a jamais eu ça. De toute façon, on n'en a jamais eu. C'est la première fois. Vraiment, je crache sur personne, mais il faut que ça cesse. Et tout ça, ça a commencé depuis l'histoire de Addissa. Et donc, moi, je suis vraiment sidérée de voir ça parce que les jeunes qui nous suivent, les jeunes qui regardent, vont trouver normal cette violence. C'est ça qui me sidère. Ils vont trouver que c'est normal parce que ça n'arrête pas. Toutes les semaines, il se passe quelque chose au Sénégal. Et donc, le cri du cœur là, parce que la femme n'est. Et en plus, ce n'est pas qu'une seule gifle, il y a un monsieur qui a giflé cette Fatou Ndiaye, ou je ne sais plus comment, Ami Ndiaye, mais il y a un autre monsieur qui lui a donné un coup de pied dans le ventre. Et cette femme, elle est enceinte de 3 mois. C'est pas possible, ça.
Ah oui, c'est très violent, quand même.
C'est un crime, moi, je peux pas voir ces images-là, je peux pas, j'arrive pas. Ça me fait très, très mal. C'est pas normal. D'où qu'elle vienne, cette violence, c'est pas normal. Il faut que ça cesse. Voilà, donc, maintenant, on va parler de la convocation de Ousmane Sonko, le 6 décembre, que tout le monde attend, pour la confrontation avec Adissar. Ça, moi, je suis contente que ça avance, parce que moi, mon seul combat, c'est ça, hein. Je m'en fous de la politique, contrairement à ce que Matari croit. Je ne suis pas politicienne. Je ne suis pas de la PR. Je ne vote même pas. Ça fait longtemps que je ne vote pas. Je crois que je n'ai pas voté depuis au temps de Abdou Diouf. Donc, je ne suis peut-être pas une bonne citoyenne, mais je trouve que les politiciens, ils sont tous pareils, surtout en Afrique. Ils sont tous corrompus. Donc, mon seul combat, là où vraiment je me bats, c'est du côté des femmes. Donc, il faut que justice soit faite. Quel que soit le leader, quelle que soit la personne, quel que soit son statut, je ne sais pas, politique, il faut que justice soit faite, que ce soit pour que la justice soit là pour tout le monde. Donc, on attend avec impatience. Il paraît que Ousmane Sonko ne veut pas aller répondre. Moi, je crois que quand on signe, quand on part signer tous les mois pour montrer sa présence sur le territoire, on va signer tous les mois. C'est parce qu'on a accepté que la justice se fasse. Donc maintenant, il faut arrêter de trouver des excuses à chaque fois. Il a refusé de faire un test ADN, ce qui est dommage, parce que vraiment, il a loupé l'occasion de laver son honneur. Il aurait pu faire un test ADN. On n'a pas besoin de son sang, juste un cheveu, la salive, ça suffit. Et ça aurait pu vraiment prouver son innocence, s'il est innocent, comme il le dit. En plus, il confond deux choses. Il parle de complot. Peut-être que c'est un piège, mais ce n'est pas un complot. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de prendre les Sénégalais pour des idiots. On n'est pas bêtes. On réfléchit, on comprend ce qui se passe. Il a été à Sud Beauté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à lui de prouver son innocence. Et c'était facile de le faire devant le juge, d'accepter un test ADN. Ça, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'il devrait même attendre pour le faire, un test ADN. Il a refusé. On va attendre qu'il réponde. S'il ne répond pas, il sait ce qu'il attend. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cette histoire. Vraiment, il l'a fait, il n'a pas fait, c'est à lui de prouver son innocence. Voilà. Donc, je vais féliciter encore les Lions et les encourager pour le 8e de finale plutôt. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Encore, on va continuer jusqu'à la finale et pourquoi pas prendre la coupe. Donc, allez les Lions, on est derrière vous. C'est pas, la coupe, ce ne sera pas la victoire de Macky Sall, mais de tous les Sénégalais. Quelle que soit leur appartenance, c'est la victoire de tous les Sénégalais. On doit jubiler, on doit les encourager et arrêter de critiquer. Ce n'est pas le moment. Voilà. Merci Richard, merci à tout le monde.
Merci beaucoup à vous, Sophie, pour votre participation.
De rien, et puis à bientôt.
Bon week-end et à bientôt, merci. Merci. Au revoir. Nous allons continuer avec une autre auditrice, une fidèle auditrice de radio, même une devenue chroniqueuse. Djedia, bonjour.
Oui, bonjour Richard, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Ça fait un moment que vous allez bien. Bien de choses à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère. Bien des choses à la mine. Donc, bon, Richard, bon, moi, je veux juste revenir sur donc ce qui s'est passé au Sénégal. Et comme je dis toujours, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais eux-mêmes. Je pense que la violence et les Sénégalaises, il faut pas se voiler la face. Les Sénégalais sont très, 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 très violents, verbalement, physiquement. Et c'est pas la première fois qu'on tape une femme ou on tue une femme parce que, tout simplement, il vous a pas dit bonjour parce que c'est une femme. Donc, je pense que la violence, c'est vraiment sénégalais. Il faut pas qu'on se voile la face et il faut qu'on le critique, que ce soit donc de l'opposition ou du pouvoir, tous les Sénégalais se valent. Tous les Sénégalais se valent. Donc, j'espère que justice sera faite et que la femme, elle va s'en sortir, j'espère, pour elle. Et que vraiment, taper quelqu'un parce qu'il a insulté ou bien il a dit des choses sur un marabout, je pense que ça, les Sénégalais doivent le dépasser. Parce qu'un marabout qui fait la politique, il est politicien. à l'instant où on parle de lui dans la politique, c'est un politicien. Arrêtons de prendre part. J'espère que les gens, en tout cas les gens qui ont fait cet acte, ils vont bien payer. Et c'est pas le marabout qui va payer à leur place, c'est eux qui vont croupir dans le en prison. Donc la violence, ça fait longtemps que ça existe au Sénégal. Et là, je fustige en plus l'opposition qui s'est réunie pour une conférence de presse pour ça, alors que la violence existe depuis des années au Sénégal. Donc que ce soit un marabout ou un Sénégalais lambda, personne n'a le droit d'insulter personne. Personne n'a le droit d'être violent verbalement ou physiquement avec quelqu'un. Il faut qu'on bannisse la violence au Sénégal. Je pense qu'au Sénégal, c'est ça le problème. Donc le problème n'est pas un problème de marabout ou un problème de politicien ou un problème, c'est un problème du peuple. Et le peuple doit prendre conscience que la violence existe bien au Sénégal. Richard, j'ai fait 5 mois au Sénégal et j'étais vraiment avec le peuple, j'ai fait les transports en commun, je sais que les gens sont très très violents. Les gens sont très 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 violents et il n'y a aucun respect de l'humain au Sénégal.
Et comment ça se fait? Est-ce qu'il y a eu un changement ces dernières années, Djidja, ou c'est récent?
Non, mais ça fait longtemps que ça existe. Mais bon, maintenant, avec les moyens de communication, tout le monde est au courant de tout. Mais ces violences, ça a toujours existé au Sénégal. Il ne faut pas qu'on dise que ce n'est pas sénégalais, des trucs comme ça. Ce n'est pas vrai. Ils sont très, 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 très violents verbalement. Tu dis pas bonjour à un Sénégalais, il est capable de te taper. Est-ce que ça, c'est normal?
Non.
Voilà, donc, mais ça, même ça, moi, je l'ai vécu, Richard, je raconte pas n'importe quoi, là. Voilà, je suis passé devant une boutique et comme ici, on prend l'habitude, on peut te parler sans te dire bonjour, c'est pas un problème, quoi. Et quand on a vécu 30 ans en France, on prend un peu cette habitude, je viens, je dis, bon, je pose une question et le gars, il se lève, il dit, mais oui, pourquoi tu nous poses la question alors que tu nous as pas dit bonjour? Il a failli me taper.
Ah oui, à ce point-là.
Donc c'est grave, les Sénégalais sont très très violents, surtout envers les femmes. Quand tu es une femme, pour eux, bon, ça c'est un peu africain, il faut le dire, c'est un peu africain. Donc il faut qu'on lutte contre la violence, quelle que soit la personne, que ce soit un marabout, que ce soit un talibé, que ce soit une bonne, que ce soit les gens, ne doivent pas être violents les uns vers les autres. Il y a un manque de respect de l'être humain au Sénégal. Moi, je le dis et je le dénonce. Et si je vous dis que j'ai fait 5 mois au Sénégal et j'ai fait observer ce qui se passe là-bas, mais je t'assure que c'est j'ai eu honte. Et à chaque fois, je dis le problème des Sénégalais, c'est des Sénégalais. Et ça m'a confirmé que vraiment, nous, on a un problème. Il faut le dire, il faut lutter contre ça. Parce que si on ne le dit pas, on ne pourra jamais le soigner. On ne pourra jamais lutter contre. Mais si on se voile la face en disant que oui, ça, c'est pas sénégalais, ça a toujours été sénégalais. Donc, tout le monde est violent. Je t'assure que des marabouts jusqu'aux politiques, tout le monde parle mal. Tout le monde insulte tout le monde. Donc, ça, c'est pas normal dans un pays. C'est pas normal. Donc, ça, c'était mon coup de gueule. Et je défie quiconque qui peut me dire que c'est pas vrai. Moi, je l'ai vécu, ce que j'ai dit, je l'ai vu, je l'ai observé, j'ai vu, voilà quoi. Donc c'est des choses qui existent et il n'y a pas un Sénégalais qui peut dire que ce n'est pas vrai parce que c'est la réalité. Bon, ça c'était mon coup de gueule. Bon, je m'excuse auprès de tout le monde si j'ai dit quelque chose qui dépasse.
Mais, non, c'était parfait,
Djidja. Bon, je félicite donc nos lions. Je suis fier des Camerounais qui ont battu le Brésil. Je suis vraiment, vraiment fier d'eux. Les Marocains, pareil, et j'aurais aimé que le Cameroun se qualifie aussi en 8e de finale, malheureusement. Mais je crois que sur ce plan-là, sur le plan sportif, les Africains, on peut être fiers de nous. Aujourd'hui, je crois qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Et j'espère que demain, le Sénégal le confirmera. Et en tout cas, on le souhaite, ils vont battre l'Angleterre et ils vont aller en quart de finale. Voilà, donc je m'excuse encore de la façon de parler, mais c'était un coup de gueule et que c'est vrai. Et que le problème, ce n'est pas un problème d'opposition ou de pouvoir. On est tous des Sénégalais et le problème, c'est les Sénégalais eux-mêmes. Je le dis et je le maintiens. Merci.
Merci beaucoup, Djidja.
Bonne chose et un bon week-end à tous les Sénégalais.
Merci de ta participation. Merci. À bientôt. Bonne journée.
Allez,
bon week-end.
Richard.
Au revoir. Alors, on va continuer en musique, juste avant de retrouver les interventions de Lamine, les interviews de Lamine qui étaient à Agadir avec le laboratoire Movida. Mais juste avant, on va écouter un peu de musique avec Youssou N'Dour. Après notre première chroniqueuse, nous allons retrouver notre deuxième chroniqueur, Medoun. Bonjour Medoun.
Oui, bonjour Richard.
Bonjour.
Oui, ça va et toi?
Ça va très bien, merci.
Oui, au passage, bonjour à Djaja qui vient de sortir. Effectivement, Djaja m'a enlevé l'eau de la bouche, comme on le dit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, c'est un problème purement sociétal. Aujourd'hui, vouloir, dire que la violence n'existe pas, c'est être hypocrite. Aujourd'hui, nous avons un problème de citoyenneté, nous avons un problème d'indiscipline, nous avons un problème sociétal. Donc c'est normal que ce problème que nous vivons au quotidien, que nous avons la violence, l'insécurité, que nous vivons au quotidien dans nos maisons, dans nos quartiers, soit se reflète au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont quand même rien d'autre que l'émanation de la société sénégalaise. Par contre, ce qui me démange, Richard, c'est l'hypocrisie et la mémoire sélective des Sénégalais. Une femme ne doit pas être tapée. On ne doit pas toucher à une femme. Moi, ma mère, je l'adore au-delà de tout. C'est ma mère, ma grand-mère qui m'ont éduqué. Ce sont des femmes qui ont fait aujourd'hui ce que je suis. Mais c'était des femmes de valeur. C'était pas des femmes qui m'ont transmis l'insulte facile à la bouche, l'invective, la menace ou des conneries. Elles m'ont éduqué à travers des valeurs. Elles m'ont donné une éducation de base qui me permet aujourd'hui de pouvoir discuter avec tout le monde. Mais ce que j'accepte pas, c'est cette hypocrisie sénégalaise. Quand Mame Diarra femme, l'année dernière, a été tapée, a eu reçu un coup de poing à l'Assemblée nationale par le député Kader Ndiaye de l'APR, où étaient tous les gens aujourd'hui qui se fustigent? Où étaient les gens aujourd'hui qui sont en train de dénoncer à l'indiscipline, qui sont en train de passer? Il faut qu'on arrête, il faut qu'on respecte les Sénégalais. Le Sénégal n'est qu'à l'image de son chef. Son chef, c'est le premier des Sénégalais, c'est Macky Sall. C'est celui qui a eu à voter en cassant un bureau de vote. Ce sont des choses aujourd'hui qu'ils nous ont habitués. Aujourd'hui, l'APR a changé fondamentalement la société sénégalaise de par leur violence. Donc il faut à un moment qu'on arrête. Je ne peux pas être d'accord avec ce monsieur de l'opposition, ce monsieur du PUR et l'autre qui ont tapé une femme. Mais cette femme, au bout du bout, en se posant la question de comment nous on fonctionne, de nous comment on est éduqué, avec les valeurs qu'on essaye de transmettre aux gens sur le respect du marabout de l'autre, parce que Mam Abdou disait, Nyatinit, c'est un célèbre marabout, je ne sais plus qui le disait, Nit Doko Khebel Bessem, c'est-à-dire Nit, tu ne dois pas mépriser son jour, Nit, une personne, tu ne dois pas manquer de considération à son mari, à son marabout. Et une personne, tu ne dois pas sous-estimer son problème à lui. Ce sont trois problèmes fondamentaux auxquels, quand tu le fais à une personne, cette personne se réveille. Quand on insulte un marabout ou quand on dit des contre-vérités sur un marabout, fut-il politique, et que l'histoire, l'incident est close, pourquoi y revenir? Pourquoi cette femme, c'est vrai, on ne touche pas une femme, à fortiori une femme enceinte, mais cette femme, quand elle se donnait un spectacle sur la tribune en disant qu'elle assumait tout ce qu'elle disait et qu'elle était capable de payer de tout ce qu'elle avait dit, avec la verne, avec la haine qu'elle le disait, est-ce qu'elle savait qu'elle était enceinte? À un moment, il faut qu'on respecte les Sénégalais. À un moment, il faut que le Sénégal se regarde. Cheikh Ahmed Tidiane Sib Ahmed Maktoub disait déjà en 80. Que la société sénégalaise est en train de traverser des périodes, il faut qu'on la lave, sinon elle se lavera avec du sang. Et je pense que les paroles de cet érudit, de cet homme de Dieu, sont aujourd'hui plus que jamais confirmées. Il va falloir qu'on se pose, il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'on se respecte, il va falloir que tout un chacun sache qu'il y a une bande à ne pas franchir. Parce que la cohésion sociale du Sénégal, elle est importante. C'est ça qui fait notre commun vouloir de vivre ensemble. Mais s'il n'y a pas un comment vouloir, envie de vivre ensemble, où va le Sénégal? Où va le Sénégal? Ce n'est pas la politique qui doit aujourd'hui faire que le Sénégal puisse se trouver à sang et à feu. Il va falloir que tout le monde se calme. Il va falloir qu'on se respecte. Il va falloir qu'on respecte la femme, qu'on respecte l'homme, qu'on respecte l'enfant. Il va falloir que cette hypocrisie sénégalaise cesse. Et il va falloir que les indignations sélectives s'arrêtent. Moi, honnêtement, je me sens mal, mais j'avais envie de rentrer, justement, de parler de cette situation et de te dire, tu es à ta place, Lamine n'est pas là, mais tu assures comme un grand et que Dieu te veille sur toi, et que voilà, c'est tout ce que, à moins que tu aies une question à me poser, à moins si voilà.
Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Medoun, de ta participation.
Allez,
merci.
Allez,
à très bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Bonne continuation.
Merci. Alors voilà, cette première partie d'émission est terminée. On va se retrouver la semaine prochaine en direct avec Lamine. Et là, je vais vous faire, je vais vous diffuser le reportage de Lamine à Agadir aux côtés du laboratoire de recherche Movida.
Bonjour Richard, nous sommes aujourd'hui à Agadir donc pour participer sur une étude des migrations et circulation des idées, des savoirs et des normes en Afrique. Et l'émission Le Plateau du Sénégal est venue à la rencontre des doctorants pour essayer de comprendre en quoi travailler sur les migrations africaines et interafricaines nous informe sur les dynamiques de nos sociétés. Et là, donc, je commence par poser cette question à Asma.
Bonjour, merci Movida pour cette opportunité déjà. Je suis Asma Bhaj Hassan, je suis doctorante. Je viens de la Tunisie, mais je fais ma thèse de doctorat à Bayreuth International Graduate School of African Studies dans le département d'anthropologie sociale. Et justement, je travaille sur les parcours migratoires des employés de maisons ivoiriens et ivoiriennes en Tunisie. J'essaie de les suivre d'Abidjan en passant par la Tunisie en arrivant en Europe, et j'essaie aussi de décrire leurs expériences, leurs parcours, les conditions dans lesquelles ils et elles travaillent, mais aussi les stratégies de agency, de résilience qu'elles emploient comme acteurs sociaux, surtout en Tunisie, dans un contexte post-révolutionnaire de 2011 où il y avait une détabouisation de la question migratoire, mais aussi un débat sur l'identité tunisienne, aussi sur les migrations en Tunisie. Donc j'essaie aussi d'analyser ça, donc à la lumière de ces transformations économiques, sociales.
Bah en tout cas, merci beaucoup Asma pour cette belle présentation.
Je vous en prie.
Merci.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Oui Richard, donc après Asma, nous passons à notre doctorant qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Baymas Mbaye, je suis doctorant en sociologie des migrations à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Alors, travail sur les migrations, ça réinterroge les perceptions qu'on a des migrants, parce qu'on pense que sur le corridor Rosso-Nouakchott-Casablanca, il n'y a que des aventuriers, il n'y a que des passeurs, des migrants clandestins, donc c'est à tous ces clichés qui est reçu, alors que c'est un espace approprié où il y a des dynamiques assez intéressantes, des dynamiques sur lesquelles beaucoup d'études sont restées myopes parce qu'ils sont toujours dans le haut. Il y a des nouveaux acteurs, il y a de nouveaux marchés, il y a de nouvelles installations. Donc, ce n'est pas nécessairement un espace désertique avec des chameliers comme on les voit dans les cartes postales. Il y a des dynamiques souterraines assez intéressantes. Il y a des marchés, il y a des circulations qu'il faut prendre en compte et qui font l'économie de cette zone. Rien que pour la frontière Rosso, vous avez, qui est la deuxième porte d'entrée du Sénégal, qui a enregistré 6 milliards en 2016 ou 2017. De recettes douanières, vous voyez, pour vous donner une idée. Donc, la circulation des camions frigorifiques qui ravitaillent Dakar de fruits. Vous avez les voitures tout-terrain des Modou. Vous avez les Loumas qui s'y activent. Vous avez les passeurs de pièces. Il y a tellement de réalités en bas. C'est pourquoi nous, on s'interroge sur la mondialisation par le bas, de montrer les spécificités à la transsaharienne que cela a, indépendamment des autres terrains qu'on a observés, comme en France, avec Aleta Russe, comme aussi avec d'autres chercheurs. Voilà en gros sur quoi je travaille.
Merci beaucoup, Baye.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc, on continue notre série de questions à nos doctorantes. Et maintenant, c'est au tour de Emeline.
Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Emeline Zoubédé, je suis socio-anthropologue et actuellement, je suis chercheuse post-doctorante à l'Institut Convergence des Migrations. Et je coordonne le département policy. Alors, cette question, je la trouve très intéressante. Parce qu'elle permet vraiment d'éclairer d'une manière assez singulière les recherches sur les migrations. Pour ma part, dans mes travaux doctoraux, je me suis intéressée à la place du travail dans les migrations de personnes originaires de la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'est une région située entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et donc je me suis intéressée à la place du travail dans ces migrations et comment ces personnes migrantes arrivaient à s'insérer sur les marchés du travail français. Ce qui a été très intéressant comme résultat de recherche, c'est de montrer que effectivement le moteur de ces migrations est le travail, hein, et on retrouve en fait quelque chose d'assez circulaire aux migrations venues d'Afrique noire dans les années 60 et hébergées dans les foyers de travailleurs migrants, et là on a une sorte de généalogie migratoire. Donc le travail comme moteur de ces migrations, et en même temps comme justification de la présence de ces migrations en France. Pour le dire vite, c'est que ces personnes trouvent à s'insérer dans les marchés du travail français, dans des secteurs d'activité soumis à une dérégulation de plus en plus croissante de l'économie et notamment à une grande flexibilité et précarité. Donc finalement, cette population d'enquête qui a été celle de ma thèse, c'est celle de travailleurs sans papier qu'on peut définir comme telle. Et donc je me suis intéressée, comme je le dis, à leurs insertions professionnelles. Et donc ils occupent souvent les mêmes postes dans les mêmes secteurs d'activité. La construction au poste de manœuvre, le nettoyage industriel au poste d'agent d'entretien et plongeur et ou de commis de cuisine dans le secteur de la restauration. Et donc si je raconte tout ça, c'est aussi que autant moi je me suis intéressée, j'ai compris comment ils trouvaient des emplois, par quel mécanisme, au moyen de cartes de séjour prêtées, louées, ou alors au moyen d'un faux titre de séjour qui permettait au marché du travail français de fonctionner avec ces emplois flexibles et précaires. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie ça, finalement, et qu'on s'arrête là, on peut croire qu'on a tout dit, et que donc on est sur de l'exploitation économique de personnes. Mais en fait, ça éclaire aussi la manière dont les secteurs d'activité français se déréglementent et précarisent de manière générale le salarié en France.
Merci beaucoup, Emeline. Mais c'est quoi ton origine ?
Ah, je suis d'origine togolaise et ghanéenne.
Eh bien, parfait. Merci à toi.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, on continue notre série de questions à nos doctorantes. Et maintenant, j'ai une autre qui va se présenter.
Bonjour, je suis Noelia. Je suis espagnole et je viens des îles Canaries. Donc, on peut dire que je suis moitié africaine. Et sur la migration, je voulais dire, je pense qu'on commet beaucoup d'erreurs en tant que chercheur et doctorant. Tu ne peux pas analyser la migration africaine sans connaître les sociétés et les dynamiques sociales africaines. Donc c'est pour cela que moi je me suis intéressée plutôt à connaître les dynamiques sociales sénégalaises et comment la société est structurée et quels sont les imaginaires sociaux et quelles sont les motivations des jeunes, quelles sont les frustrations des jeunes. Et quel est le rôle de maman dans la société sénégalaise et quels sont les facteurs culturels qui poussent les Sénégalais à prendre la route migratoire. Et je pense que bon, c'est la base. Je pense que tout chercheur doit s'intéresser d'abord à connaître bien les pays qui veut enquêter en fait.
Et justement, Noelia, je vois que tu es une vraie chercheuse. Parce que tu parles Wolof presque mieux que moi.
Ah ouais, tout irek. Tout irek. Mais dama bego yanga Wolof. Mais au fil de temps, j'espère, Inch'Allah, je vais bien parler Wolof.
Mais yang ci waxu bax ngane yaay ñu tax nit ñi di jël bato yi ak yoy. Les mamans.
Les mamans.
Ouais, ngane la mère, elle est très importante.
Ah, la mère, elle est la base hein, des sociétés sénégalaises. Elle est la base, elle est la reine. Il y a une dette morale envers les mamans. C'est pour cela que beaucoup de Sénégalais se disent « Si je n'ai pas d'opportunité ici pour nourrir ma mère, et il faut que je parte ailleurs. » Et ça, c'est aussi une des motivations, mais il y a plusieurs. Mais ça, c'est une des motivations de Sénégalais pour prendre la route.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup.
De rien. Nyokobok.
Allez, merci, au revoir.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc, comme tu le vois, la série donc, de nos intervenants continue. Et là, maintenant, nous donnons la parole à une autre doctorante qui va aussi se présenter.
Ok, bonjour, je me présente Idoumoukel Safiatou. Je suis doctorante à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et je travaille sur les trajectoires des enfants de la rue dans la ville de Niamey. Au fait, l'objectif de ce travail, c'est d'étudier les dynamiques migratoires des enfants de la rue, d'étudier ou bien d'analyser leur trajectoire au sein de la ville en posant des questions sur leur passage dans la rue. Qu'est-ce qui pousse ces enfants à vivre dans la rue, à vivre de façon autonome, loin de leurs parents? Et aussi, c'est essayer de voir les conditions dans lesquelles vivent ces enfants. Et en tant que chercheur, j'essaie aussi d'appréhender ce phénomène sur le plan scientifique en déconstruisant les idées reçues sur les enfants. Vous voyez comment... À l'Occident, la manière dont ils appréhendent les enfants de la rue, ce n'est pas de la même manière ici au Niger. Donc, j'essaie un peu de déconstruire les idées.
Mais quand vous parlez des enfants de la rue, c'est les enfants talibés.
Bon, ici, dans le cadre de mon travail, si je parle d'enfants de la rue, certes, il y a les enfants talibés, c'est-à-dire ceux qui sont placés dans des écoles coraniques traditionnelles, loin de leur famille. Ils sont sous la tutelle d'un maître coranique. Ces enfants, certes, ils ne passent pas la nuit dans la rue, mais ils passent toute leur journée dans la rue. Et ils fréquentent aussi l'autre catégorie des enfants de la rue qui font de la rue un espace de vie, un lieu de logement, d'hébergement. Eux, tout le temps, ils sont dans la rue. Et il y a certains d'entre eux qui sont en rupture familiale. Donc, les deux catégories se fréquentent. Et bien évidemment, lors de nos enquêtes, on a vu que la plupart des enfants de la rue étaient des talibés. Donc, certains talibés, la grande partie de ces talibés, se retrouve dans la rue, donc il y a un lien entre les deux.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc on continue la série de passages de nos intervenants. D'ailleurs, il faut que je rappelle à nos auditeurs que la question principale, c'est en quoi travailler sur les migrations africaines et intra-africaines nous informe sur les dynamiques de nos sociétés. Et maintenant, je suis en face de Saïdia. Qui es-tu et que fais-tu?
Bonjour. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Saïdia Dinia, je suis marocaine et je suis en première année de thèse à l'Université internationale de Rabat où je suis affiliée au Center for Global Studies. Je travaille sur la question de la migration de retour féminine au pays d'origine, donc le cas précis de Marocaines qui ont vécu à l'étranger et qui à un moment décident de leur plein gré de revenir s'installer au Maroc. Alors l'objectif est de comprendre déjà qu'est-ce qui les fait revenir. Quand on voit l'étendue des souffrances des personnes qui veulent quitter le Maroc, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui fait revenir d'autres personnes et comment ça se passe pour elles une fois qu'elles reviennent. Et je pense que ça peut vraiment nous aider non seulement à comprendre les dynamiques de nos sociétés africaines, mais aussi plus largement les dynamiques mondiales. Et déconstruire certaines idées aussi sur les migrations africaines.
Je vous ai entendu parler donc du retour des hautes compétences et des basses compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Alors déjà, cette question cette expression de hautes compétences me pose un peu problème parce que qui dit hautes compétences dit basses compétences. Alors que je me dis, on est tous et toutes un amalgame de hautes et de basses compétences. Ça dépend de nos apprentissages. Et tout le monde, tous les migrants de retour, peu importe leur trajectoire, ont quelque chose à apporter au développement du Maroc. Donc, ils sont tous les bienvenus.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
La valse de nos doctorants continue. Et maintenant, c'est au tour de Amadou Seibou.
Oui, mon nom c'est Amadou Seibou. Je suis doctorant à la faculté de lettres de l'Université Abdoumoune de Niamey au département de géographie. Donc, je fais mon doctorat sur les retours surtout forcés à partir des destinations africaines comme la Libye, l'Algérie et puis un peu une destination extra-continentale qui est l'Arabie Saoudite. Donc comment ces gens-là sont expulsés, comment ils arrivent d'abord à s'insérer là-bas, comment une fois après l'expulsion ou bien le retour forcé, ces gens-là arrivent à vraiment s'insérer dans leur société de départ. Au fait, vraiment, l'importance d'étudier ces migrations intra-africaines, c'est de comprendre vraiment les dynamiques intra. Parce que, au fait, les projecteurs étaient orientés entre l'Afrique et les autres continents. Mais il est très essentiel de savoir comment ça se passe entre les pays. Par exemple, comment, dans le contexte de guerre en Libye, comment les gens, est-ce que ça a augmenté la vulnérabilité de nos migrants? Comment les rapports avec les Libyens, avec nos gens qui partent chez eux, comment ça se construit autour de la violence qui est là? Et au niveau de l'Algérie aussi, comment ça se construit? Comment les gens sont expulsés? Comment les gens ils arrivent, malgré ces expulsions, à s'insérer dans cette société-là? Donc, il est très important de savoir, de questionner toutes ces problématiques pour vraiment faire l'état de la migration intra-africaine.
Merci beaucoup, le marabout, comme on t'appelle. Hein.
Merci beaucoup. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Et après avoir donné la parole aux doctorants, j'aimerais quand même qu'on entende les chercheurs donc, sur la nécessité d'avoir organisé cette journée. Et donc, naturellement, Stéphanie, c'est à toi que ça revient de nous dire le pourquoi du comment.
Très bien, merci. Alors, je suis Stéphanie Lima, je suis enseignante, chercheuse à l'Université de Toulouse, dans un laboratoire qui s'appelle le LIST. Donc, ces journées d'école doctorale sont très importantes parce qu'elles permettent à des étudiants d'avoir des moments d'échange en direct avec des spécialistes, ici des questions migratoires en Afrique. Ces temps de formation à la recherche sont des temps d'apprentissage, sont des temps de transmission où les étudiants peuvent directement présenter leurs travaux de recherche, des travaux de recherche qui sont en construction. Ils peuvent partager leurs questions sur toutes les étapes de leurs travaux de recherche. Donc cet échange direct avec des spécialistes, avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs, ces échanges directs ont une grande valeur, d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est que en étant sur place aussi dans un pays qui est concerné par ces questions de migration, c'est aussi un moment privilégié qui nous fait sortir de nos cadres de travail habituels. Et puis c'est un moment privilégié parce que dans ce type de journée, des étudiants venus de différents pays peuvent se rencontrer. Ça permet aussi de casser certains préjugés aussi, certaines idées reçues, parce que ces étudiants se rencontrent, venus de différents pays, on a une dizaine de nationalités. Et là aussi, pour eux, c'est un moment d'apprentissage important parce qu'entre eux, ils peuvent discuter de leur projet de recherche et repartir chacun chez eux avec de nouvelles perspectives.
Merci beaucoup.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, nous venons de donner la parole donc aux doctorants, la parole aussi aux encadreurs, aux chercheurs. Et là, nous avons la chance d'avoir le doyen de l'Université d'Agadir qui va tout simplement lui aussi répondre à la question en quoi travailler sur les migrations africaines et intra-africaines pour nous informer sur les dynamiques de nos sociétés et surtout la nécessité de recevoir tout le monde, tout ce beau monde dans son université.
Très bien. Alors, Abdelkhalek Jayid, je suis doyen de la faculté des langues, des arts et des sciences humaines qui relève de l'université Ibn Zohr. Nous sommes ravis d'accueillir les travaux de la cinquième édition de l'école de la formation à la recherche sur les questions qui se rapportent donc à la migration. Alors, comme vous le savez, peut-être, de par l'appellation donc de la faculté, nous nous intéressons de très près aux problématiques qui concerne la mobilité, la circulation donc des gens, mais aussi des biens culturels, des connaissances, des savoirs, des idées et des normes. Nous avons un intérêt particulier pour la migration africaine parce que nous estimons effectivement que c'est là un domaine de recherche encore naissant chez nous et on se doit de lui accorder toute l'importance qu'il mérite. Bien sûr que les problématiques liées à la migration, notamment la question épineuse des représentations, c'est quelque chose qu'on incite les étudiants à prendre en charge, parce qu'on a besoin aussi d'entendre un autre discours, de mener un travail de déconstruction justement des représentations, des idées qu'on peut avoir sur la question donc de la mobilité.
Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci de nous avoir accueillis dans votre belle université. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Merci, Lamine, d'être l'envoyé spécial de notre semaine de formation à la recherche Movida. C'est la cinquième année où on retrouve les chercheurs, les encadrants, pour travailler avec eux sur des ateliers doctoraux, pour avancer sur leurs recherches, pour comprendre comment ça se passe l'immigration intra-africaine à travers plusieurs objets, paradigmes. Et on avance avec eux aujourd'hui, cette fois, à Agadir, avec la FLASH, la Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines, qui nous a accueillis pendant toute une semaine pour travailler ensemble sur des ateliers, mais aussi à travers deux communes aussi. La thématique de cette édition, je vais laisser Aruna la présenter.
La thématique de cette édition porte sur la circulation des normes, des idées et des savoirs. Dans un contexte de migration, vous savez que les hommes et les femmes se déplacent avec des savoirs, se déplacent avec leur expérience. Cette expérience, peut-être, ils peuvent la porter au départ de leur pays d'origine, mais aussi ils peuvent l'acquérir au niveau de la migration. Cette école d'été est une occasion pour un peu faire le point de l'état d'avancement des travaux de nos doctorants. Et nous avons à cette occasion, il y a un certain nombre de présentations de ces doctorants sur leurs travaux avec des commentaires, des observations, des conseils pratiques que les encadrants leur ont donnés pour leur permettre de pouvoir avancer. Mais la particularité aussi de cette cinquième édition, c'est qu'elle a été couplée avec une formation sur les policy briefs. Qui est un outil de vulgarisation des résultats de la recherche, puisque au niveau du LMI Movida, nous avons un volet Movida d'action où nous faisons cette interaction entre la science et société, puisque l'idée c'est de renforcer l'utilité des résultats de recherche que nous obtenons, de pouvoir les transférer vers un certain nombre d'acteurs, que ce soit les décideurs.
C'est pour ça que cette semaine a été organisée aussi avec deux communes proches d'Agadir qui ont des acteurs locaux qui s'impliquent dans la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'immigration au Maroc, qui est une stratégie qui permet d'accompagner la mise en œuvre de politiques publiques sur l'accueil des immigrants au Maroc. Donc on est ravis de pouvoir finir cette semaine avec les acteurs locaux, les chercheurs, les jeunes chercheurs, et d'être tous ensemble avec les journalistes et les médias pour pouvoir essayer de faire avancer un petit peu la compréhension des migrations africaines et de montrer en quoi ces migrations sont une ressource pour nos sociétés.
En tout cas, merci à vous pour cette belle semaine d'échange et de réflexion sur les migrations africaines et intra-africaines. Merci à vous.
Merci.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Nous allons finir cette interview avec Hicham. Et Hicham, je te laisse te présenter.
Les auditrices et les auditeurs de Radio Galère, bonjour ou bonsoir à vous toutes et à tous. Alors, je m'appelle Hicham Jamid et je suis chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, basé à l'Université d'Aix-Marseille et dont le siège est à Marseille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Radio Galère à Agadir, qui est la capitale de la région du Sous-Massa, dans le centre du Maroc. Et nous sommes très heureux et très contents de que vous partagiez cet événement scientifique qui s'organise dans le cadre de la cinquième édition de l'école de formation à la recherche du LMI Movida.
Justement, pourquoi avoir choisi le site d'Agadir?
Alors, Agadir, c'est la capitale de la région du Sous qui est connue par une grande ou bien une longue histoire avec l'immigration. Donc, beaucoup de Marocaines et Marocains dans les années 50, 60, ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, partaient ici d'Agadir pour aller travailler, notamment dans les mines de la Lorraine ou du Nord-Pas-de-Calais. Et puis aujourd'hui, cette région est devenue aussi une région qui attire beaucoup d'immigration, notamment d'immigration qui vient aussi bien du Nord, je précise, ça veut dire l'ensemble de retraités européens et non retraités d'ailleurs, qui choisissent cette région pour s'y installer, pour y travailler, notamment dans le secteur de l'agriculture, du tourisme, etc. Et puis aussi, on a une immigration, on va dire, de ce qu'on appelle des migrants originaires des pays de l'Afrique subsaharienne. Et du coup, on trouvait que c'était intéressant d'organiser cet événement ici, notamment aussi grâce à nos différentes coopérations et collaborations avec des laboratoires de recherche ici, avec l'université, mais aussi avec les collectivités locales, notamment la commune d'Inzgan et la commune de Tchera et d'Agadir.
Merci beaucoup Hicham d'avoir choisi ce magnifique site. On s'est régalé, vraiment bien régalé. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Nous venons donc, Richard, de boucler avec toutes ces interventions cette école de formation sur les migrations et les circulations des idées, des savoirs et des normes en Afrique. Et je peux te dire que par rapport aux différents travaux de nos enseignants et chercheurs, il faudra préciser quand même qu'au niveau mondial, le continent africain présente une mobilité internationale moins importante que celle des autres régions du globe terrestre. Et malgré tout, les migrations internationales africaines continuent de susciter des craintes de plus en plus aiguës. Ces migrations suscitent des débats de plus en plus sectaires. Ça suscite des politiques de plus en plus drastiques, ce qui entraîne des contrôles de plus en plus stricts, soi-disant, pour maîtriser les flux migratoires. Mais Richard, heureusement qu'il existe des espaces d'échange, d'éveil et de réflexion impulsés par le laboratoire Mix International Movida, où des travaux de ses chercheurs contribuent à tordre le cou aux idées reçues et surtout contribuent au changement de regard à porter sur les migrations africaines et les migrants africain. En tout cas, Richard, j'étais très très content d'avoir affaire à cette jeune génération d'intellectuels africains, donc ces doctorants qui, comme je leur ai dit, j'espère tout simplement, demain feront la fierté de ce continent africain, parce qu'il y a vraiment des choses à faire dans notre continent et on leur souhaite tout simplement une bonne continuation. Parce que c'est une jeune génération talentueuse et ce que Nelson Mandela nous disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et j'espère tout simplement que ces Africains arriveront à changer l'Afrique, mais arriveront aussi à changer le regard de certains Occidentaux sur l'Afrique et leurs migrants. En tout cas, très bonne émission avec Étienne et on vous dit tout simplement à samedi prochain.